France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et en cette nouvelle semaine qui débute, la dernière de l'année 2019, c'est toujours la grève contre la réforme des retraites qui domine une partie de l'actualité ce matin. À 36 heures des vœux d'Emmanuel Macron, les grévistes sont toujours mobilisés, dans les transports surtout. À la SNCF, il y aura aujourd'hui un TGV sur deux en moyenne, 4 TER sur 10, un intercité sur 4. En Ile-de-France, la RATP prévoit une nette amélioration avec 14 des 16 lignes de métro ouvertes, mais seulement le matin et en fin de journée. Le syndicat LUNSA évoque un simple effet d'annonce de l'entreprise et précise que la RATP n'a à sa disposition que 200 conducteurs sur les 2700 habituellement. Aucune négociation n'est prévue avant mardi prochain. 31 migrants ont été secourus dans la Manche hier. 11 d'abord ont été récupérés au large de Calais avant qu'une autre embarcation ne soit rapatriée. Tous tentaient de rejoindre l'Angleterre. Depuis le début de l'année, plus de 2500 migrants ont été secourus dans la Manche. 5 positions liées au Hezbollah irakien ont été touchées hier par des missiles d'avions américains. Cela s'est passé dans l'ouest de l'Irak et l'est de la Syrie. Des frappes en représailles après la mort d'un civil américain, c'était vendredi, lors de tirs de roquettes sur une base militaire irakienne. Ces frappes, ces représailles ont fait hier 19 morts au moins. Washington évoque un succès et n'exclut pas de nouvelles frappes si nécessaire. L'armée américaine qui a effectué hier également des frappes aériennes contre des miliciens islamistes Shebab en Somalie. 4 terroristes ont été tués, voilà ce que dit ce matin Washington. Samedi, je vous le rappelle, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 79 morts et des dizaines de blessés dans un quartier animé de Mogadiscio. Un attentat toujours non revendiqué. Et puis notez qu'en Australie, des milliers d'habitants et de touristes sont contraints aujourd'hui d'évacuer une partie de l'état de Victoria au sud-est du pays. Les températures caniculaires et les rafales de vent attisent les feux de forêt qui font rage depuis des semaines. 8 personnes y sont mortes.
Tous les jours sur France Culture à 21h. Tous les jours sur France Culture à 21h. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Chaque soir, pendant une heure, des femmes et des hommes déploient leurs pensées, leur représentation du monde, leur rapport à la création et leur dialogue avec l'époque. Par les temps qui courent, eh bien je vous propose justement qu'on prenne le temps d'explorer ensemble l'actualité culturelle en profondeur.
Par les temps qui courent, du lundi au vendredi à 21h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture. Nous commençons la semaine et ce lundi tranquillement avec Toufik Hakem et nous parlons littérature ce matin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel que vous pouvez écouter tous les matins, si vous êtes lève-tôt à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible, par exemple en passant par l'application de Radio France ou en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, avec à la prise de son ce matin Catherine Déreté. Et l'invité du jour est Agnès B. Agnès B, un prénom, une lettre, une marque. Agnès B, la créatrice de mode, bien sûr, mais aussi Agnès B, la collectionneuse d'art contemporain. Agnès B, la productrice qui a accompagné des réalisateurs et des réalisatrices comme Claire Denis, Patrice Chéreau ou Harmonie Corinne, ou pour restaurer le Playtime de Jacques Tati. Agnès B, créatrice et mécène qui sillonne le monde, organise des festivals de cinéma à Hong Kong, à Sarajevo, à Tokyo et s'implique dans le conflit israélo-palestinien pour trouver un chemin vers la paix. Agnès B qui achète un voilier pour financer des expéditions scientifiques dans les océans, plusieurs vies en somme, et on ne sait toujours rien, ou presque, sur Agnès B, la personne. Celle qui est née à 150 mètres à peine du château de Versailles se livre dans un recueil de paroles, de confidences, de confessions qui vient de paraître. Un petit livre, beau et modeste à la fois, où elle évoque pour la première fois l'importance de son éducation spirituelle. « Je crois en l'âme », tel est le titre de l'ouvrage édité par Bayard.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Agnès B.
Bonjour.
Si j'étais née à Marrakech, je serais sans doute musulmane, dites-vous en préambule de ce livre, issu de vos entretiens avec la journaliste Patricia Kenouna. Mais vous avez grandi dans une famille bourgeoise, de droite, chrétienne, pour reprendre votre...
À Versailles.
À Versailles, oui. pour reprendre votre expression. Est-ce à dire que ce qui est important dans la foi, c'est pas la religion, que vous auriez pu être musulmane, juive, chrétienne, que c'est pas ça l'important. L'important, c'est de croire en Dieu.
C'est, ou de croire en quelque chose. C'est d'avoir une foi, c'est d'avoir, de faire vivre son esprit, son âme, parce que moi, ça me tient, quoi. Ça me tient à cœur. Et je sais que si j'étais née à Marrakech, je serais sans doute musulmane. J'ai tenu absolument à ce qu'il y ait ce préambule. Parce que je me sens aussi proche aussi des bouddhistes, comme était mon ami John Journeau. Ou... Voilà, c'est pas une... Chacun sa foi, chacun sa vie. Chacun est comme il est. Et il n'y a rien de plus personnel que la foi, je pense.
Mais vous avez décidé d'en parler? Enfin.
Et j'ai fini par être obligée d'en parler parce
pourquoi
que.
Pourquoi obligée?
Parce que c'est Bayard qui m'a convaincue, en fait. Les éditions Bayard m'ont appelé en me disant, voilà, on voudrait faire un livre avec vous, parce que j'avais parlé une fois de la foi dans une interview. Ils m'ont convaincue parce que pour moi, les cathos, j'aime pas les cathos, le mot catho, je suis catholique, bon, je suis catholique, j'ai la foi, je suis née à Versailles, ouais. Voilà, mais les cathos, j'aime pas trop. J'ai toujours été catholique de gauche dans mon esprit, comme on disait déjà il y a 40 ans. Et même en 68, j'étais déjà catholique de gauche. J'étais de très gauche même. Je suis toujours, en fait, de cœur. En fait, je suis gauche de gauche de cœur.
Et catholique, oui. Profondément.
Et je pense que ça va ensemble, en fait. Oui, bien sûr. Ça va ensemble. On m'a appris une chose, c'est aimez-vous les uns les autres. Et il se trouve que ça m'a parlé, mais 5 sur 5, ça. Puisque j'ai une nature comme ça... J'adore partager, j'adore le collectif, j'adore le « on », j'adore être les amis. Tout. On est vivant, voilà, on est vivant.
Vous racontez votre éducation religieuse, parce que vous avez eu une éducation religieuse.
Ah oui.
Agnès B, on voit même une photo, vous êtes en communiante d'ailleurs.
Oui, oui.
Ça a été important pour vous?
Ça dépendait des moments. Il y avait des moments où j'avais 6 ans ou 7 ans, j'étais chez les sœurs auxiliatrices des âmes du purgatoire, à Versailles.
Tout un programme.
Oui. Et on nous faisait dire des chapelets, les bras en croix, à genoux sur le parquet. On était petites, je trouvais ça faux. Alors ça, j'étais révoltée, là. Je le faisais quand même, mais je trouvais que c'était pas ça que Jésus pensait être bien pour nous. J'avais ça au fond de moi. J'aimais Jésus, hein. Jésus, il fait partie de ma vie depuis que je pense.
Jésus tel que raconté par
oui,
vos
mère...
parents, votre éducation.
Oui, ma mère nous lisait au moment où ça allait encore bien dans la famille, disons. Elle nous lisait la miche de pain le soir. Quelques pages, c'était un livre en format à l'italienne avec des dessins et ça racontait la vie de Jésus. Et j'aimais beaucoup cette histoire, je l'ai prise... comme on aime un livre, et puis même, ça a été beaucoup plus loin, évidemment. Mais ça a commencé comme ça.
Beaucoup plus loin, c'est-à-dire ben,
j'ai aimé d'une autre manière le ciel. Mais j'ai quand même, évidemment, la même foi que j'avais à 4 ans ou 5 ans.
Avez-vous été pratiquante dans votre vie, Agnès B, en fréquentant?
Oui, oui, j'étais pratiquante, mais j'ai divorcé à 21 ans de Christian Bourgois. Je m'étais mariée à 17 ans, j'avais des jumeaux que j'avais eu pour mes 19 ans. Et j'étais obligée de divorcer. Christian a demandé le divorce parce qu'il sortait avec quelqu'un. Et voilà. Et de toute façon, bon, je vivais plus avec lui déjà depuis un moment. C'était au moins 2-3 ans après que je l'ai quitté. Et après, j'ai plus communié parce que on m'avait appris à Versailles ça qu'on était excommunié quand on divorçait. Et donc un jour, il y a pas tellement longtemps, j'étais voir un curé à la campagne. Et je lui ai expliqué que ça me faisait beaucoup de peine toujours de ne pas pouvoir communier. Il m'a juste dit « Oh, mon pauvre petit enfant, donc, maintenant, je sais pas ce que pense le pape François. » Le pape François qui est communiste, lui. Hein.
Toutes les pratiques, tout le rituel autour de la religion, ça vous manque, Agnès B?
Non, parce qu'on prie n'importe où. Je dis même que je prie quelquefois en faisant la brasse coulée, en remerciant ou en priant pour quelqu'un. J'ai pris une manière, c'est que je m'adresse au ciel. C'est ça ma manière de prier. À mes amis du ciel, comme je dis, mais c'est vrai.
Mais pourquoi? Pour vous rapprocher des autres et de la nature? Ou parce pour vous persuader qu'il y a une vie après la mort?
Oui, oui. Je crois en la vie éternelle, oui. Mais oui. C'est pour ça que je parle de mes amis du ciel.
Vous dites aussi dans ce livre, Agnès B., dans la nature ou dans les œuvres d'art, la beauté me renvoie à Dieu.
Oui, parce que je trouve que l'émotion mystique et l'émotion esthétique sont quelque chose qui sont deux choses tellement proches. En tout cas, dans mon cas, et je crois que c'est vrai. Je crois que si un artiste fait quelque chose de beau, c'est vraiment pour bouleverser quelque chose chez celui qui regarde. C'est sûr. D'une manière ou d'une autre, mais c'est pour le faire réfléchir, pour le faire sentir. Quand un artiste fait une œuvre... Hier soir, j'étais au Centre Pompidou pour Boltanski. C'était bouleversant, cette exposition. C'était magnifique. Donc là, un exemple parfait et juste, hier soir, comme un artiste peut bouleverser. Il y a un moment, c'est beau et ça vous renvoie à d'autres choses qu'à vous-même. Ça vous sort de vous-même, ça vous emmène ailleurs. La beauté de l'art, ça m'a toujours.
Ouais, ça, c'est la force de l'art ou de l'artiste que vient la religion ou Dieu dans cette affaire.
Il y a beaucoup de choses qui. Non, mais je pense que ce sont des émotions qui se ressemblent, vraiment. Puis je me souviens, quand j'étais à 12 ans à Florence, à voir les Botticelli, ça me bouleversait de voir le printemps aux offices, là, c'était tellement beau.
C'est ce que vous dites d'ailleurs dans Je crois en l'âme, vous dites que la figure de l'ange, la figure a beaucoup compté dans votre éducation.
J'avais 6 ans, j'avais ces cartes postales des anges de Fra Angelico dessus de mon lit que j'avais mis en bande comme ça, parce que mon lit était le long du mur et les anges étaient au-dessus comme ça. Pendant longtemps, c'était ces cartes postales qui étaient au-dessus de mon lit. Je crois que c'est ma première collection, c'est les cartes postales des anges de Fra Angelico. C'est la première pièce de ma collection.
À la question « Croyez-vous en Dieu ?», Agnès B., bien sûr, vous répondez par l'affirmative.
Oui.
Et du coup, vous croyez aussi...
Oui, je crois, comme on dit.
...à son corollaire, le diable, Satan.
Pas tant que ça.
Non ?
Non. Puis si jamais il m'approche, je le renvoie. Je sens, quand j'ai envie de penser du mal de quelqu'un, « Allez, casse-toi », je lui dis. Tu dis au diable, casse-toi.
Agnès B., parler aujourd'hui de la religion, ce n'est pas innocent.
C'est pas innocent, mais... Non, c'est pas innocent. C'est bizarre comme c'est pas le bon mot. Pardon.
Eh ben, remplacez-le par le mot...
C'est coupable ou innocent, alors ?
Non, mais je veux dire qu'à un moment où...
C'est pas sans conséquence. C'est pas sans...
Ouais, mais aujourd'hui, plus que jamais, je dirais.
Oui, je sais bien. Je sais bien, mais bon, chacun peut... Heureusement qu'on peut s'affirmer dans ce sens-là, alors qu'il y en a trop qui s'affirment dans un sens agressif, hein. Là, j'ai un euphémisme.
En quoi la foi que vous avez, Agnès B., a-t-elle guidé vos choix artistiques, par exemple ?
Non. Mes choix artistiques, vous savez, c'est... J'ai une collection où les artistes font preuve de tellement d'audace que je vais appeler la hardiesse, d'ailleurs, bientôt. Et je pense que les artistes que j'ai collectionnés, vous parliez d'Harmonie Corinne ou de Roman Cieslewicz ou de Martine Parr, Massimo Vitali, il y a des choses, j'ai une très grande collection, il y a beaucoup d'artistes, je vous cite 4 noms qui me viennent à l'esprit parce que je les aime énormément et qui sont beaucoup sur l'humain, ils ont beaucoup photographié l'humain. Martine Parr, Massimo Vitali, les gens sur les plages et tout, ils ont photographié l'humain et ils ont fait de l'humain quelque chose qui vous bouleverse. Martine Parr avec les Anglais pauvres qui sont pas avec l'enfant qui nage qui se baigne au bord d'un port avec des saloperies, Martine Parr il aime les gens et c'est quelqu'un qui aime les gens et j'aime sa vision qu'il a, sa vision avec énormément d'amour. En fait,
la foi que vous avez, Agnès B., est-ce qu'elle a un lien direct avec votre enfance?
Ah oui, la foi que j'ai, elle est directe avec mon enfance, ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Née à Versailles ou à Marrakech, on n'a pas la même croyance, même si on a le même besoin de vie spirituelle. Je crois que j'ai une vie spirituelle en même temps que j'ai une vie. Puis il y a l'immanence et la transcendance. Moi, j'aime la transcendance. J'aime l'idée de transcendance et l'immanence, c'est quand même ce qu'est l'Église catholique actuellement. Ses évêques prêts à compenser des abus avec de l'argent, ce qui m'horrifie. Vous voyez, je pense que j'aime mieux lire Saint-Jean que lire ça dans le journal, franchement.
À quoi ressemble un Noël préparé, organisé par Agnès B.
C'est ma famille, là.
Ça reste la famille ?
Ah oui, bien sûr, mais j'ai une grande famille, hein, que j'adore. Je suis entourée de marmailles et d'ados et de tous les âges. Hein. Oui. C'est ça qui
m'est... Mais ça reste pour vous un rituel religieux ou un rituel plutôt culturel?
Ah non, mais c'est religieux, bien sûr. Je leur explique la crèche, tout ça. On fait la crèche avec les petits qui ont 6 ans, 5 ans, 8 ans.
Vous allez à l'église ensuite?
On va à l'église, oui. On essaie. Il y en a qui y vont, il y en a qui ne vont pas. On s'organise. Ou alors j'y vais le lendemain. Ou... Voilà. Parce
comment
que c'est minuit qu'il y a des petits, tout ça. J'ai toujours eu des petits, alors je ne les emmène pas à la messe de minuit, tout ça. Donc, bon. Mais je vous dis, on peut prier n'importe où. Hein.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Je vous salue, Marie.
En hommage à Jacques Nau, je vous salue Marie, c'était fait pour vous,
beau,
pour cette émission Agnès B.
Ouais, c'est très beau, parce que je crois que je l'ai déjà entendu, mais c'est une belle surprise, c'était joli.
Je remercie très souvent Dieu de m'offrir la possibilité d'exercer un métier que j'adore dans des conditions aussi exceptionnelles. Vous êtes la seule à pouvoir écrire cet ouvrage, je pense, à Agnès B. Vous faire traiter de bigote.
Bah, j'ai beaucoup de chance, franchement, ouais. Parce que j'adore faire mon travail, j'adore mon équipe, j'adore arriver au boulot, voilà.
Mais
vous
incarnez beaucoup plus la femme libérée de toutes les contraintes, y compris des contraintes cultuelles ou culturelles. Agnès B, c'est Stéphane Hessel qui disait que vous êtes une femme de 68 et que le B de Agnès B, c'est le B de bonté.
Mais oui.
Mais quelle bonne définition.
C'est gentil, mais il disait, il faut explorer la bonté, contrée extrême où tout se tait.
Alors comment
c'est ce que disait Stéphane Hessel, c'est beau.
Oui.
Hein, moi, je cherche les gens bons, d'ailleurs, à la rencontre des gens bons et des gens qui me semblent intéressants et qui ont un côté comme ça de bonté. Moi, je crois que mes amis sont tous des gens très bons, en fait.
Et pourtant, le monde est dur, le
ouais,
monde
bah,
des affaires,
bah, heureusement qu'il y a
le monde
des gens
de la
bons.
Mode. Bah,
je ne connais pas le monde de la mode, vraiment. Je ne les connais pas.
Et pourtant, on vous identifie comme une tête du chic parisien et donc de la mode, oui.
Non, du vêtement. Je suis une couturière. je ne sais pas coudre. Hein. Mais j'adore dessiner des vêtements. Puis j'adore faire plaisir aux gens. C'est un métier où il faut aimer les gens. pour leur faire plaisir. Moi, c'est ça mon moteur.
Et dans ce livre où vous confessez, oui, je crois en l'âme, édité chez Bayard, vous consacrez tout un chapitre à l'importance de l'éthique.
Ben oui, bien sûr. Parce que tout ça, ça va ensemble. C'est une morale, c'est une morale, on dirait chrétienne, mais ça peut être une morale d'une autre religion. La morale, c'est la morale pour tout être. Voilà, ça fait partie de la vie. Et donc j'essaie par tous les moyens, même dans la maison, dans les choix qu'on fait, de lieu de fabrication, de tout, j'essaie qu'il y ait une éthique. Sinon, je me sentirais pas bien.
Par exemple, dans les lieux de fabrication, c'est quoi l'éthique ?
C'est d'aller dans des pays, par exemple, au Pérou, on fabrique des pulls en alpaga parce qu'ils produisent la matière première. Pareil en Mongolie, c'est en Mongolie qu'on fabrique les cardigans pression en cachemire là, parce que la Mongolie produit et donc on achète là-bas. On fait, par exemple, Madagascar, on fait travailler à Madagascar. On choisit les lieux de fabrication par rapport à... Il y a une question de prix, bien sûr, parce qu'en France, ça devient très très cher de fabriquer en France, même si je m'y emploie depuis toujours. Je continue, mais maintenant, récemment, ça devient fabriqué pour le luxe. Et pour moi, Agnès B, c'est pas ce que j'appellerais le luxe. Le luxe d'Agnès B, enfin, c'est la coupe, le tissu, mais ça n'a rien de... d'agressivement riche, quoi. J'aime pas un vêtement, on se dit, oh, elle a pu s'acheter ça, j'ai pu m'acheter ça. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent d'acheter un truc cher. Ben, c'est pas un message qui me passionne, moi.
Donc, s'assurer que la matière vient de pays où on n'exploite pas les enfants.
Bien sûr, on va dans toutes les usines où on fabrique. On visite les usines, on sait où on fabrique. Puis on fabrique en Europe, parce que en France aussi, à 35-40% en ce moment, encore, mais on a beaucoup de mal. Parce que là, ce sont nos fournisseurs qui ont délocalisé eux-mêmes. Alors, c'est ça qui se passe en France. Mm-hmm. C'est bien malheureux. Hein. Puis il n'y a plus d'école de formation, donc ce sont les usines qui restent encore qui forment les gens à la machine et au travail de confection. C'est peut-être un travail que les Français ne veulent plus faire aussi, celui-là.
Agnès B, vous qui avez rencontré plein de stars, plein de réalisateurs, de chanteurs, d'écrivains, quand on vous demande de vous prêter au jeu de qui admirez-vous le plus, dans ce livre « Je crois en l'âme », vous citez l'abbé Pierre en première position. Vous allez me dire c'est le sujet de votre livre, bien sûr. Ensuite, Daniel Mitterrand.
C'était une belle rencontre. Hein.
Pierre Mendès France, Édouard Glissant. Et vous terminez par le pape Jean-Paul II. Mais alors, la rencontre avec l'abbé Pierre, vous dites que c'est le journal Elle qui vous a demandé un jour une interview croisée avec une personnalité. Oui. Vous leur proposez l'abbé Pierre. On ne sait pas si vous leur proposez l'abbé Pierre parce que vous savez très bien que ce qu'ils attendent de vous, c'est plutôt une personnalité de la mode. Yves Saint-Laurent, oui. Alors, est-ce que c'est pour les déstabiliser ou est-ce que vraiment au premier degré?
C'est pour les deux, hein, mais surtout pour rencontrer l'abbé Pierre. Je rêvais de le rencontrer depuis que j'avais 13 ans, alors. Parce que quand en 56 ou 4, je sais plus quand c'était.
54, ouais.
Voilà.
Le fameux appel du 1er février.
Ouais, alors j'avais fait sortir toutes les bouteilles des caves de la maison où j'habitais à Versailles, de l'immeuble, avec les autres enfants. Et on avait sorti des bouteilles sur le trottoir pour l'abbé Pierre. Après, il y a eu sa photo dans Paris Match, dans son camion avec son béret et tout. Moi, j'étais fan de film. Ouais. Vraiment, à 13 ans. Je le trouvais magnifique, cet homme. Parce qu'après, il y avait eu les bidonvilles là-haut, dans le nord de Paris, tout ça. Qu'est-ce qu'il dirait en ce moment, l'abbé Pierre? Il pousserait une grande gueulante.
À propos de quoi?
Par rapport à toute la misère, bien sûr.
Qui n'a pas reculé.
Et sa voix manque. Même s'il y a la fondation Abbé Pierre, il y a Emmaüs. Mais il manque une voix comme la sienne, je pense.
Quand vous allumez la radio, la télé...
Ça peut être un athée, hein.
Oui. Quand vous lisez les journaux et que vous tombez sur l'affaire du voile en France qui, depuis 30 ans, n'arrête pas d'hystériser les médias français, vous en pensez quoi, Agnès B?
On ne va pas, ces femmes qui, pour des raisons qui leur appartiennent, portent un voile, ça leur appartient, je pense. Il y en a, on peut parler de ça très longtemps, il y a des émissions tout le temps là-dessus en ce moment. Bon, moi je dis que si ça les coupe de la vie sociale, de porter le voile parce qu'elles sont exclues, c'est la pire des choses à faire. Moi ça m'est complètement égal qu'elles aient un voile.
certains couturiers des plus connus se sont mis justement à confectionner des tenues dites islamiques pour ces femmes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, moi je me lance pas là-dedans. Il y a des très bons couturiers marocains et dans tous ces pays-là, il y a beaucoup de goût. Et bon, ce qui est terrible, c'est la baya, la robe noire avec la fente pour les yeux. Bon. D'ailleurs, j'ai vu un truc en Iran, il y a une femme qui se promène les cheveux en Arabie Saoudite, les cheveux à l'air. Ça va faire preuve de courage. Mais il y a tellement de raisons différentes de porter un voile. C'est ça, le nœud du truc. C'est ça. C'est qu'il y a des raisons imposées, il y a des raisons personnelles. On ne mange pas de porc, on porte un voile. Bon, on va pas lui faire de force manger du porc à celle qui porte un voile. C'est aussi violent.
C'était bien d'avoir votre avis, Agnès B, ce matin. Et pour terminer, l'affaire Polanski, Adèle Haenel.
Polanski, Adèle Haenel. Adèle Haenel, j'aime beaucoup la manière dont, finalement, elle s'est dit, il faut que j'en parle, puisque il tourne un film avec des ados. Voilà, elle s'est dit ça a déclenché chez elle le besoin de dire, pour prévenir, et que ça n'a pas été fait dans son cas. Elle a une histoire proche de ce que j'ai pu vivre aussi, moi, entre 12 ans et 16 ans, donc je la comprends très bien. Je pense qu'elle en parle très bien. Par
Vous
contre, l'histoire de Polanski, ouais. Polanski, on pourrait quand même rappeler qu'il a vécu dans les années 70, c'était une autre époque, c'était autrement. Et il a eu sa femme enceinte, tuée par Charles Manson. Il a vécu des trucs horribles. Qui est de la pulsion, qui a pu lui faire ce qu'il a fait à Valentine Monnier. C'est Valentine Monnier. Bon, qu'est-ce qu'il est ? Je sais rien. Moi, je suis pas là pour le juger. D'ailleurs, il n'a pas été jugé sur cette affaire. Donc, je pense plus important de parler de l'affaire Dreyfus et de l'antisémitisme qui monte en France, plutôt, finalement, que de casser ce film qui a vraiment une utilité pour moi. Et l'histoire de Polanski avec cette personne, bon, s'il faut un jugement, il faut un jugement. Mais pour l'instant, il n'a pas été jugé. C'est tout.
Et d'une manière générale, cette libération de la parole des femmes, le mouvement MeToo, vous le saluez, Agnès B?
Je le salue. Je trouve que ça a pu prendre par moments des manières qu'on dit hystériques. Le mot hystérique est un mot qui vient d'utérus, déjà, tout ça. C'est trop
c'est
hystérique.
C'est délicat, d'employer ce mot, ouais.
Ouais, je trouve que c'est un peu comme ça, trop, par moment, par certaines paroles. Et que c'est très très bien d'en parler, mais alors il faut aller jusqu'au fond, parler les enfants qui, en ce moment, à qui il peut arriver des choses, faut prévenir. C'est plus prévenir maintenant. Parce qu'on ne peut pas guérir, en fait. Et j'en parle en connaissance de cause. On n'en guérit pas de choses qui vous arrivent entre 12 et 16. Ou avant, j'en sais rien.
Il vous a fallu combien de temps pour que vous puissiez
en parler ? Il m'a fallu faire un film pour pouvoir... Il m'a fallu faire un film, écrire un long métrage de 2 heures qui s'appelle « Je m'appelle M », qui est allé au Festival de Venise, de New York, de Londres, qui est resté 6 mois au Japon, qui n'est pas sorti en France, vraiment, et qui m'a... Comment dire ? Ça m'a fait une espèce d'exorcisme, peut-être, d'écrire le film, de filmer, de tourner, de monter, de... Voilà, c'est pas mon histoire, hein. C'est une autre histoire, c'est ça qui est bien, c'est un road movie.
Je crois en l'âme, c'est édité chez Bayard.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Je crois en l'âme d'Agnès B. est édité par Bayard. Merci beaucoup d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci. Toufik, je vous appelle ?
Bah, si vous voulez, c'est mon premier nom. Ou Toufik H, comme Agnès B.
Toufik H, merci.
À bientôt.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Profession économiste, c'est le titre de notre série cette semaine. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho.
Déconstruisons les idéologies avec Thomas Piketty. Dans les coulisses du Fonds monétaire international avec Olivier Blanchard. À la recherche du juste impôt avec Stéphanie Stancheva. La recherche française à la pointe avec notamment Pierre-Yves Joffard. Enfin, quelle économie pour 2020, on s'interrogera. Entendez-vous l'écho de lundi à vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une attaque terroriste, une attaque antisémite, disent déjà les autorités américaines. Près de New York, le suspect accusé de s'en être pris à une célébration de Hanouka a été inculpé hier soir. Nous reviendrons sur les faits, sur cette attaque, dès le début de ce journal. Nous irons aussi en Grèce, où pour la première fois hier, une manifestation contre l'avortement était organisée. En France, la grève se poursuit à la RATP et à la SNCF, principalement. Le mouvement contre la réforme des retraites n'est pas prêt de s'arrêter, vous entendrez un cheminot à Orléans dans un instant. Et puis nous avons interrogé des personnels hospitaliers, eux aussi mobilisés. Ils demandent surtout plus de moyens. 54% des infirmiers et des aides-soignants hospitaliers se disent insatisfaits au travail. Un suspect a donc été inculpé de 5 chefs d'accusation pour tentative d'homicide après l'attaque à l'arme blanche ce week-end près de New York. Il s'en est pris à une fête religieuse juive dans la résidence d'un rabbin lors des célébrations de Hanouka. Agression qui a fait 5 blessés et qui a poussé le président Donald Trump à appeler à éradiquer le fléau de l'antisémitisme. Ce sont ses mots. Il n'est pas le seul à avoir réagi, Loïc Loury.
Un acte de terrorisme intérieur, les propos sont ceux du gouverneur de New York, Andrew Cuomo. La police, elle, n'a pas encore confirmé le motif de l'attaque, mais la piste antisémite semble la plus probable. Les faits se sont déroulés à Monsey, quelques dizaines de kilomètres au nord de New York. C'est la résidence d'un rabbin hassidique qui a été prise pour cible. Sur place, au moins 100 personnes réunies pour les célébrations de Hanouka. Un homme y a donc fait irruption avant de poignarder quiconque se trouvait à sa portée. L'individu en question a ensuite tenté, sans succès, de pénétrer dans une synagogue adjacente avant de prendre la fuite. Il sera rattrapé 2 heures plus tard dans le quartier new-yorkais de Harlem, couvert de sang selon un policier. Tout cela alors que les autorités ont enregistré ces derniers mois une recrudescence des actes antisémites dans la région. Nous ne tolérerons pas, affirmait hier le maire de New York, Bill de Blasio, que cela devienne une nouvelle normalité.
Et nous reviendrons sur ces attaques antisémites qui se multiplient outre-Atlantique. Ce sera dans la revue de presse internationale à 7h35 tout à l'heure sur France Culture. L'armée américaine a bombardé hier soir des bases d'une faction armée pro-Iran en Irak, tuant au moins 19 combattants. Il s'agit en fait de représailles ordonnées par Washington 2 jours après une attaque à la roquette qui a tué pour la première fois un civil américain sur une base irakienne. L'Iran est donc visé par les Américains sur le sol irakien. L'Iran critiqué aussi par Paris et qui réplique. Téhéran dénonce l'ingérence de la France dans l'affaire d'une chercheuse détenue. Fariba Adelka est une anthropologue franco-iranienne détenue en Iran depuis le mois de juin sous accusation d'espionnage. Vendredi, les affaires étrangères françaises avaient convoqué l'ambassadeur d'Iran à Paris pour dénoncer la détention intolérable de cette chercheuse qui a entamé une grève de la faim. Son collègue Roland Marchal est également détenu depuis 6 mois en Iran. Partons maintenant en Grèce où les signaux contre les droits des femmes se multiplient. Outre toute une série d'allocations arbitraires pour les mères de plusieurs enfants ou pour celles qui accouchent avant 30 ans, était fêtée hier en Grèce la journée de l'enfant pas né. Autrement dit, une manifestation des anti-IVG contre l'avortement. Angélique Kourounis l'a suivie pour nous.
Pour la première fois dans l'histoire du pays, on a fêté la journée de l'enfant pas né, instaurée officiellement le premier dimanche après Noël par le gouvernement conservateur dès son arrivée au pouvoir en juillet dernier, sur la demande expresse de l'Église grecque qui met en avant un réel problème de démographie. Depuis la crise, il y a presque 10 ans, les décès dépassent constamment les naissances et pour Mgr Gabriel, il faut agir.
C'est un vrai problème qui touche la Grèce et plus largement toute l'Europe. Sur la base des chiffres disponibles, les morts dépassent les naissances de plusieurs milliers depuis très longtemps. Si on continue entre 2030 et 2050, la population aura baissé de 20 à 25%.
La messe de ce dimanche est donc à marquer d'une pierre noire pour les féministes. Outre les sévères sermons en faveur de l'enfant pas né, autrement dit contre l'avortement, des tracts ont été distribués dans les églises du pays. Mais à la sortie de la messe, les avis sont mitigés. Panayota, mère de 2 enfants, refuse de prendre parti.
L'enfant à naître doit être protégé, mais c'est à chaque femme de décider. Elles n'ont qu'à revendiquer leurs droits et les organisations anti-avortement aussi.
But de l'opération pour l'Église, à terme, faire capoter la loi sur les avortements qui, en Grèce, font office de contraception. 40 000 sont déclarés chaque année, mais on estime le chiffre réel à 300 000. C'est un marché très lucratif pour les gynécologues qui, du coup, en majorité, s'opposent à toute autre forme de contraception. Pour le gouvernement, il s'agit plutôt de mettre en place une politique nataliste très prisée sur sa droite, voire extrême droite. Les mouvements féministes, eux, ont prévu pour leur part toute une série de manifestations.
C'était Angélique Kourounis à Athènes pour France Culture. Les forces gouvernementales ukrainiennes et les séparatistes pro-russes de l'État de l'Ukraine ont achevé hier l'échange de leurs derniers prisonniers. Cela fait suite à un accord conclu le 10 décembre dernier par les dirigeants Vladimir Poutine, le russe, et Volodymyr Zelensky, l'ukrainien. La présidence ukrainienne indique ainsi que 76 de ses ressortissants ont retrouvé leur foyer 5 ans après le début du conflit. Le ton se durcit entre le gouvernement français et la CGT, le premier accusant l'autre de mener un syndicalisme de blocage. La grève, en tout cas contre la réforme des retraites, continue chez les cheminots ce lundi. 26e journée consécutive, la SNCF prévoit ainsi un TGV sur deux aujourd'hui. Et dans différentes gares en France, des assemblées générales vont se tenir pour voter la reconduction ou non de ce mouvement, jusqu'à vendredi au moins. Et ce sera le cas, la reconduction du mouvement, ce sera le cas a priori devant la gare des Aubrais aujourd'hui, près d'Orléans. Pour faire durer le mouvement, les cheminots cherchent aussi à se renouveler. Ils ont quelques idées. Écoutez à ce propos Jérôme, conducteur de train à Orléans depuis 3 ans.
On ne peut pas perdre de l'argent depuis le 5 décembre et venir avec le sourire tout le temps. Donc je pense qu'on va essayer de trouver de nouvelles idées. On a fait le Noël des grévistes. Tout à l'heure, on évoquait de faire les nouvelles résolutions des syndiquets. Nos résolutions seront les mêmes que cette année. Ça veut dire qu'on ne changera pas de cap. Il faut que les gens comprennent qu'on ne lâchera pas. Il faut qu'on arrive à rassembler les gens. Il faut qu'on aille voir les usagers. Il faut qu'on aille voir tous les secteurs privés, publics. La dernière fois, on a fait une grosse action sur un rond-point. On a essayé de discuter avec les gens qui étaient dans le bouchon. Donc certains étaient mécontents. Conçoit quoi. Mais enfin, après, s'ils ont des idées d'action pour que ça marche, autre que bloquer les trains, nous on est preneurs. On est prêts à mettre un simulateur au milieu de la gare. Ils verront si ils vont gagner de l'argent avec la nouvelle retraite par point. Il faut qu'ils soient avec nous, il faut qu'ils nous soutiennent.
Des propos recueillis par Marine Protet de France Bleu Orléans pour France Culture. Mobilisés eux aussi, les personnels hospitaliers. De nombreux services sont toujours en grève. Ils demandent davantage de moyens. Selon le baromètre carnet de santé réalisé ce matin par Odoxa pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, leur morale d'ailleurs est au plus bas. Ce sondage réalisé sur Internet entre le 16 et le 20 décembre dernier auprès de 936 professionnels de santé hospitaliers est sans appel. Alors que plus des 3/4 des Français se disent satisfaits au travail, les infirmiers et les aides-soignants hospitaliers, eux, sont majoritairement insatisfaits, à 54%. C'est d'ailleurs 6 points de plus qu'en septembre. La preuve avec ces témoignages recueillis à Toulouse par Clémence Fuléda.
Cela fait 28 ans que Diami est aide-soignante. Elle travaille à Purpan pour 1 780 € bruts par mois.
Déjà d'une, c'est une vocation, donc c'est l'humain qui est au cœur de notre métier. Quand vous allez à l'hôpital, vous êtes vulnérable. Donc les soignants, avec leurs compétences et tout ce qui s'ensuit, l'éducation aussi, et puis le reconfort des patients, je vais dire, voilà, c'est l'humain qui parle, c'est ça qui me plaît.
Oui, mais comment continuer quand les patients affluent et que les taux financiers se resserrent? Benoît Dupuis, aide-soignant aux urgences et encarté chez Sud.
Il m'est arrivé de faire des nuits aux urgences où, sur mes 10 heures de travail, j'ai vu entre 20 et 25 patients. Donc je vous laisse décompter le temps que j'ai à m'occuper de chaque patient, tout en sachant que je suis à deux doigts de compter le café que je vais donner à un accompagnant qui est là depuis 5 heures, parce que c'est pas prévu dans le protocole. On devient inhumain, quoi. Enfin.
Et pourtant, ils sont là, parce qu'ils ne se voient pas faire autre chose, oui, mais aussi parce qu'ils croient en l'hôpital public. Aurélie, infirmière en traumatologie.
Un jour ou l'autre, tout le monde peut avoir besoin de l'hôpital et le voir se délabrer, alors que les compétences sont là, que les envies sont encore là de bien faire les choses. Moi, je pense que ça mérite qu'on se batte pour sauver l'hôpital.
Un hôpital public où l'on sort sa carte vitale avant de sortir sa carte bleue.
Elle vient de passer le 1 000 000 de signatures. La pétition de l'association « Nous voulons des coquelicots » semble convaincre largement. Une pétition qui demande la suppression des pesticides de synthèse. Pour France Culture, Dounia Mayedine s'est penchée sur les pesticides utilisés régulièrement dans les stades sportifs.
Le pissenlit, la pâquerette ou le trèfle rouge empêchent-ils vraiment de jouer au foot? Les complexes sportifs ont déclaré la guerre aux mauvaises herbes afin de préserver une bonne qualité des pelouses. Pour cela, ce sont des pesticides de synthèse qui sont utilisés, mais qui ne sont pas sans danger. Dans une tribune publiée dans le journal Libération en 2018, des médecins et chercheurs ont alerté sur l'emploi de ces fongicides. Leur inhalation peut provoquer des cancers ou des maladies telles que Parkinson. Pour François Vaillerette, membre de l'association et président de Génération Future, les pesticides doivent au minimum être bannis des terrains sportifs.
Peut-être que pour la Coupe d'Europe ou le championnat du monde, on veut bien entendre qu'il faut avoir un gazon qui soit à la perfection. Mais après, pour tout le sport populaire, amateur, etc., il n'y a pas nécessité d'avoir une telle perfection des gazons. Et dans un premier temps, au moins, faire en sorte que les terrains amateurs et de sport populaire soient gérés sans pesticides de synthèse. D'ailleurs, c'est déjà le cas dans certains clubs où finalement l'entretien se limite à tonte, un peu soignée, à du roulage. Et voilà, on ne fait pas du sport pour s'exposer à des produits dangereux. On fait du sport pour tous les bienfaits qu'il procure, notamment au niveau sanitaire.
Après un an de tests en 2010, la ville de Rennes a renoncé au traitement phytosanitaire sur la totalité de ses terrains de sport, à l'exception du stade Rennais où joue l'équipe de Ligue 1, comme l'explique Daniel Guillotin, élu à l'écologie urbaine de la ville.
Depuis 1997, on avait déjà arrêté l'utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces verts de la ville. Et donc, d'un point de vue santé, c'était de se dire il faut qu'on aille plus loin, de regarder aussi côté terrain de sport. On souhaite, notamment en plein hiver, cette période qui est très humide, on joue moins sur le terrain parce que ça va le dégrader. Ça demande plus de moyens, plus de temps en termes d'entretien.
Et cette question des pesticides sur les terrains de sport a fait l'objet d'un colloque au Sénat en novembre dernier, durant lequel a émergé la perspective d'une proposition de loi en 2020 afin de les interdire.
C'était Dounia Mayedine pour France Culture. Les nuages bas du matin devraient s'estomper au fil de la journée sur la France métropolitaine pour laisser place à de belles éclaircies ce lundi. Le tout sous des températures qui se rafraîchissent. Il fait ce matin moins 1 à Strasbourg, 1 degré seulement à Lille, Bordeaux et Lyon, 2 à Paris, 4 à Bayonne, 9 degrés à Marseille. Vous écoutez France Culture, il est 6h41. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à toutes et à tous.
Nous vous retrouvons pour les enjeux internationaux et vous le soulignez ce matin Julie, l'année à venir sera une année d'élections en Afrique de l'Ouest.
Oui, une année importante politiquement dans la région avec des élections présidentielles ou générales dans 6 pays, le Togo, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et le Niger. L'année commencera aussi avec le résultat de l'élection présidentielle qui s'est tenue hier en Guinée-Bissau sur la côte pays frontalier du Sénégal au nord et de la Guinée-Conakry au sud. La Guinée-Bissau a été une colonie portugaise quand la Guinée-Conakry était française. La première a obtenu son indépendance en 1974, soit 16 ans après la seconde. Cette élection présidentielle aura été particulièrement surveillée par la CEDEAO, qui est la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, dont c'est l'occasion ce matin de rappeler à la fois le rôle et le poids. Elle sera notamment chargée, cette CEDEAO, si tout se fonctionne comme prévu, d'accompagner la fin du franc CFA dans 8 de ses pays membres, comme annoncé il y a 10 jours par le président de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron. Bonjour Vincent Fouché.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur au CNRS. Vous avez notamment travaillé sur la Guinée-Bissau qui votait hier pour le second tour de l'élection présidentielle. Les résultats seront connus dans quelques jours. Alors c'est vrai que c'est un tout petit pays, la Guinée-Bissau, 1 800 000 habitants. Mais l'élection qui a eu lieu hier a-t-elle un enjeu au-delà de ses frontières pour la région en général, pour l'Afrique de l'Ouest?
Alors, comme à chaque fois, dans tous les, il y a une sorte d'obsession électorale à la fois dans la société et puis aussi dans la communauté internationale dès qu'il s'agit d'Afrique de l'Ouest, comme si les élections étaient une sorte de marqueur démocratique essentiel, fondamental, qui pouvait changer les équilibres politiques. C'est le cas cette fois-ci à Bissau et c'est un enjeu pour la CEDEAO parce que la communauté économique s'est vraiment très impliquée dans le pays depuis le coup d'État de 2012. Elle a vraiment porté à bout de bras avec beaucoup de forces politiques et aussi en déployant une force militaire le pays. Elle essaye de le faire avancer d'élection en élection. Maintenant, il faut quand même rester prudent. On avait déjà eu une élection de transition en 2014, hein, enfin une élection présidentielle, et cette élection, elle avait entraîné juste des risques de blocage supplémentaires politiques, cette fois-ci pas par de la violence. Entre 2014 et 2019, la démocratie, c'est plus que l'élection.
Alors, la CEDEAO, justement, si elle est présente et si elle a décidé de renforcer sa présence militaire, notamment à l'occasion de cette élection, c'est parce que la Guinée-Bissau est un pays très instable politiquement depuis son indépendance en 1974. De nombreux coups d'État sont venus déstabiliser la vie politique de ce pays. Alors là, les observateurs sur place, comme on dit, disent que la démocratie est vivante à l'occasion de ces élections, que des cortèges défilaient ces derniers jours à l'effigie des deux finalistes, qu'il y a une envie de politique, mais avec une réserve, donc cette présence bien visible de la force régionale ECOMIB, c'est la force régionale de la CEDEAO, qui a occasionné cette présence très visible des manifestations contre elle. Est-ce que c'est nouveau, ce rejet d'une autorité ou d'une institution, disons, communautaire dans un pays membre de la CEDEAO, qui parle d'ingérence?
C'est un cas assez unique, hein, la présence comme ça d'une force qui est quand même déployée dans le pays depuis 2012. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Il n'y a pas d'autres cas de force comme ça à aussi long terme dans une situation qui n'est pas exactement une situation de guerre ou de fin de guerre, hein, d'accord de paix. Et c'est vrai qu'il y a une montée. Alors c'est assez partisan. C'est un des deux camps, hein, de l'élection qui considère que la CEDEAO est biaisée, qui considère que la CEDEAO soutient un des candidats. Assez fortement. Ça, c'est une question d'interprétation. Moi, j'ai pas vu vraiment de
soutien de flagrant.
Ça me paraît pas très convaincant. Maintenant, voilà, on a un camp qui considère que la CEDEAO est partisane dans tout ça. Ce que la CEDEAO essaie de faire, hein, c'est de faire avancer le processus, que les élections se tiennent au bon moment, que les accords politiques soient respectés. Elle a poussé dans ce sens-là. Bon, ensuite, il faudrait regarder dans le détail, les différents pays de la CEDEAO ont des préférences, des alliances avec certains acteurs politiques bissauguinéens. Certains d'entre eux, pas tous, hein, c'est des pays qui sont pas particulièrement intéressés par Bissau. Je pense que l'institution, elle est plutôt neutre un peu par construction dans cette affaire.
D'ailleurs, depuis quand la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, je le rappelle, se mêle-t-elle de politique, elle qui a été créée, alors en 1975, surtout pour favoriser une certaine intégration économique des pays d'Afrique de l'Ouest?
Oui, c'est vrai que l'Afrique est découpée comme ça en une série d'organisations d'abord économiques, hein, un peu sur le modèle au fond de la Communauté économique européenne à ses débuts, qui vise à une intégration économique, douanière et autres. Mais au final, c'est vrai que ce mandat-là est rempli de manière très inégale. On sait bien, par exemple, que la question de la liberté de circulation des biens et des personnes en Afrique de l'Ouest reste encore assez compliquée, assez inégale. Et cette organisation, notamment la CEDEAO, hein, c'est vraiment trouver un destin dans le courant des années 90 sur ces questions de maintien de la paix et aussi dans une certaine mesure de démocratie, hein, de l'enracinement des normes démocratiques, y compris dans les textes de la CEDEAO, avec par exemple des décisions fortes sur la question des coups d'État. On a comme ça toute une sorte de cadre normatif qui est appuyé par une cour de justice de la CEDEAO qui a rendu des décisions intéressantes, hein, qui a, dans un certain nombre d'affaires, condamné des États membres pour des violations de droits de l'homme envers des citoyens. Donc là, on a une sorte d'élaboration normative qui est assez singulière et qui distingue vraiment la CEDEAO des autres espaces économiques régionaux africains qui sont, voilà, beaucoup moins engagés. Et puis donc aussi le maintien de la paix, hein, où il y a quand même un engagement. Il y a eu plusieurs forces de la CEDEAO dans la région. Maintenant, les succès ont été assez inégaux, hein. On a quelques réussites. On a aussi un certain nombre de situations où la CEDEAO a été peu convaincante.
Est-ce que d'ailleurs, par exemple, ce protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance qui a été adopté en 2001, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir dans un État membre en cas de violation grave et massive, je crois, dit le texte, des droits de l'homme, est-ce que ce protocole a déjà été mis en œuvre? Est-ce que la CEDEAO a déjà eu à intervenir sur ces questions-là?
Alors, politiquement, oui, hein, et puis on a eu une série, on a eu une des interventions, disons, vraiment concrètes. Il y en a eu deux assez récentes. Il y a eu cette intervention en Guinée-Bissau, donc depuis 2012. Il y a eu une intervention aussi en Gambie en 2017 lors de la contestation électorale par le président sortant, hein, où la CEDEAO a eu un rôle quand même très particulier. Mais la Guinée-Bissau et la Gambie, ce sont deux tout petits pays au sein de l'espace CEDEAO, ce sont des pays qui à l'époque étaient diplomatiquement très isolés. Il reste à voir, et ça va être une des questions de l'année, hein, comment la CEDEAO va se placer quand des pays importants, puissants, connaissent des situations difficiles. On a vu qu'au Mali, la CEDEAO n'avait pas vraiment trouvé sa place. Et cette année, on va avoir trois élections qui vont être très tendues dans des pays importants, hein, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo, où les élections vont être particulièrement tendues, avec toute une controverse sur la question de la réforme constitutionnelle. Il va être intéressant de voir comment la CEDEAO se positionne face à ces cas-là.
Et donc là, la CEDEAO a priori un véritable pouvoir d'intervention. En tout cas, ce protocole de 2001 lui donne mandat, entre guillemets, pour intervenir au cas où. Elle est également, la CEDEAO, chargée de trouver des solutions aux conflits armés, aux crises politiques. Alors, dans les pays qu'on a cités en Afrique de l'Ouest, il y a eu en Guinée-Bissau cette guerre civile courte, mais ravageuse en 97-98. L'ONU aussi était très présente. Ces conflits du Libéria, de Sierra Leone, qui menace toujours de déstabiliser la région entière. Est-ce que la CEDEAO a les moyens d'imposer la paix quand un conflit éclate? Est-ce que son engagement militaire ou diplomatique a déjà contribué à éviter un conflit ou à y mettre fin?
Alors, j'en ai déjà un peu parlé. Une des questions centrales, c'est la question du rapport de force. La CEDEAO est assez efficace dans des petits pays membres, assez isolés diplomatiquement, comme la Gambie ou la Guinée-Bissau. Quand on est face au Mali, c'est beaucoup plus compliqué. Quand la CEDEAO est intervenue au Sierra Leone, au Libéria, elle s'est au fond engagée dans la guerre civile avec des résultats un petit peu inégaux. Et il a fallu aussi un engagement international des Nations Unies et autres en soutien pour que la situation se débloque vraiment. Donc voilà, tout ça c'est assez compliqué. Hein, la question de l'échelle, c'est une organisation qui n'a pas forcément des grands moyens, qui dépend... Il y a un soutien de l'Union européenne, un financier un peu structurel qui appuie l'organisation dans ses opérations. Mais à part ça, c'est une organisation qui dépend des États membres. Le Nigeria, à un moment, avec utilisé sur l'argent du pétrole pour financer une série d'actions. Le Nigeria est beaucoup plus prudent maintenant au plan des engagements. Donc il faut pas non plus, il faut avoir des attentes réalistes. Hein,
Le Nigeria qui est la puissance régionale en quelque sorte. Alors, parmi les 15 États membres de la CEDEAO, Vincent Fouché, 8 aujourd'hui utilisent le franc CFA, dont la valeur est indexée sur l'euro. Or, la fin du franc CFA a été annoncée il y a 10 jours par Alassane Ouattara, le président ivoirien, et par Emmanuel Macron. Donc, cela concerne encore une fois 8 pays de la CEDEAO. Les 7 autres membres de la CEDEAO ont des devises qui ne sont pas convertibles entre elles. La monnaie qui est destinée à remplacer le franc CFA, qui s'appelle l'ECO ou qui s'appellera l'ECO, est-ce qu'elle sera une monnaie commune à tous les pays membres de la CEDEAO, 15 pays, dont ceux qui n'utilisaient pas le franc CFA jusqu'à présent?
Alors, c'est intéressant parce que cette idée d'une monnaie commune de la CEDEAO, elle est sur la table depuis longtemps. Elle avait même d'ailleurs rebondi ces derniers temps. Et puis, face à la montée des critiques contre le franc CFA, le président Macron et les présidents africains, ou en tout cas la Côte d'Ivoire, qui est la principale économie de la CEDEAO, hein, mais on imagine que les autres présidents ont été consultés, ont essayé de faire une sorte de contre-pied, hein, de devancer les critiques en acceptant, en transformant le fonctionnement du parti, le fonctionnement du franc CFA en partie, et en le collant à cette idée d'écho. Donc la théorie, c'est évidemment que l'écho doit devenir la monnaie de toute la CEDEAO. On a eu hier soir un communiqué assez ambigu du Ghana, hein, qui se félicite de l'écho, de cette transformation du CFA en écho, mais qui souligne que le Ghana soutient le projet d'écho comme une monnaie à change flottant, à change non indexé sur l'euro. Donc ça veut bien dire qu'il y a, chez les pays non membres du franc CFA, enfin les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de la communauté CFA, il y a quelque chose comme le sentiment d'un inaboutissement partiel.
Est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'un pays comme le Nigeria acceptera d'adhérer à ce CFA réménagé? Parce que lancer un écho arrimé à l'euro avec une garantie de la France, comme vous venez de le dire, le Ghana l'a bien souligné, c'est pas vraiment le projet ouest-africain tel qu'il est énoncé depuis quelques années.
on a du mal à voir le Nigeria s'associer à ce projet-là. Oh oui, ça paraît difficile à imaginer. C'est une économie qui est vraiment surdimensionnée hein, par rapport à celle des autres États de la CDAO.
Alors, il faudra. Alors, vous n'êtes pas économiste, mais peut-être encore un petit mot sur ce franc CFA. Il faudra respecter pour adhérer à l'éco, respecter les critères de convergence. Ça paraît surprenant. En fait, les critères de convergence sont quasiment ceux qu'on impose aussi aux pays européens pour l'euro. Il faudra se maintenir en dessous de 3% du produit intérieur brut de déficit, de 10% d'inflation, avec une dette inférieure à 70% du PIB. Est-ce que ce sont des critères qui vous paraissent réalistes? Dans ces pays africains de l'Afrique de l'Ouest que vous connaissez bien.
Bon, alors voilà, il faut regarder au cas par cas, mais au fond, un certain nombre d'économies de la région ne sont pas si éloignées que ça. Après les grands désendettements hein, des années 2000, ne sont pas si éloignées de ça que ça de ces critères. Donc, ça n'est pas nécessairement là qu'est le problème.
Alors politiquement, malgré ses défauts, beaucoup disent que cette éco sera une étape cruciale du panafricanisme, donc à la fois pour l'indépendance renforcée du continent, mais aussi la solidarité entre tous les pays d'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oula, ça me paraît... c'est l'horizon affiché d'un certain nombre d'acteurs, hein. C'est une sorte de doxa au fond en Afrique. Tout le monde est pour le panafricanisme. Maintenant, il faut bien avouer qu'au plan institutionnel et au plan de la réalité des vies politiques des États, on est encore loin de cette idée-là. On a eu cette transformation hein, d'organisation de l'unité africaine en Union africaine, qui semblait symboliser un peu cette volonté de transformation. L'Union africaine a quand même du mal à trouver ses marques.
Alors d'une manière générale, Vincent Fouché, dans cette région d'Afrique de l'Ouest qui va connaître des élections importantes cette année, on le redit, au Togo, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Niger et surtout au Burkina Faso, est-ce que il y a ce que le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne appelle une sorte de cohérence interne, une unité socio-culturelle au sein de ce bloc régional? Quels sont, d'après vous, les enjeux de ces élections dans la région cette année?
Alors, un des enjeux, c'est la consolidation hein, de cette sorte d'avancée supposée de la CDAO en matière démocratique. On a vu que la CDAO avait été capable en Guinée-Bissau et puis en Gambie de faire respecter un certain nombre de principes. Mais une fois encore, c'est la question centrale, c'est quel est le rapport de force hein, est-ce que la CDAO est en position de faire au plan diplomatique? Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Le président de la commission de la CDAO est un Ivoirien, un proche de la présidence ivoirienne. Comment est-ce que il va pouvoir se positionner face à l'élection, à l'éventuelle candidature discutable au plan constitutionnel du président Ouattara? C'est une question intéressante.
Alors Vincent Fouché, pour conclure, la CDAO, il y a 10 jours à peu près, a voté un plan d'action pour lutter contre le terrorisme dans la région. Un budget qui sera financé, a dit le président de la CDAO, par des ressources internes à hauteur $1 milliard. Mais est-ce que les pays membres en ont les moyens?
Bon, les économies africaines, hein, d'Ouest africaine, et pour une certaine nombre d'entre elles, ont de la croissance économique, hein, parfois soutenue. On n'est plus dans les années 90. Ou 80.
Non, mais en interne, en tout cas, il y a eu des voix dissonantes pour dire on ne pourra pas financer ça.
Alors, tout à fait, mais bien sûr, voilà, il y a quand même des États et des pays dans la zone qui ont de l'argent. Maintenant, il y a aussi des États qui ne parviennent pas à payer leurs cotisations à la CDAO. Hein. Donc, c'est sûr que voilà, il y a une vraie question là-dessus. Et puis plus largement, on a beaucoup de plans Sahel, hein, beaucoup de plans contre le terrorisme. Un peu tout le monde, chaque institution, chaque pays a le sien. Et on voit bien, les nouvelles du Mali, du Burkina et du Niger le montrent régulièrement, qu'on a du mal à trouver la clé.
Merci beaucoup Vincent Fouché d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et nous mettons cet entretien bien sûr en ligne sur le site de France Culture à la page des enjeux internationaux. Bonne journée à vous.
Merci à vous aussi.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Voir le monde au plus près, LSD, la série documentaire, Perrine Cavran.
Un micro qui vous prend par la main et vous emmène sur le terrain. Un grand thème en 4 épisodes autonomes, complémentaires et addictifs. Des sons qui fabriquent des images parce que, comme disait Orson Welles, à la radio, l'écran est plus grand qu'au cinéma.
Cette semaine, l'automobile et nous.
Conduire ou ne pas conduire? Carcan ou liberté? Machine à rêve ou fléau? Comment agit-elle sur nous? Comment s'en passer? L'automobile et nous, LSD, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture 6h59 et cette semaine, les matins de France Culture vous sont présentés par Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Julie, au moins pour le début
au
de la semaine.
Au moins jusqu'à mercredi.
Jusqu'à mercredi 1er janvier. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Voici effectivement les matins de France Culture à 6h59. Nous recevrons Gérard Noiriel tout à l'heure pour profiter de son analyse et de sa lecture socio-historique des événements qui agitent la France en ce moment, notamment dans le cadre de cette contestation contre la réforme des retraites. L'auteur d'une histoire populaire de la France rééditée à l'automne et qui est par ailleurs directeur d'études à l'EHESS sera avec nous à partir de 7h40. Avant ça, tous les autres rendez-vous avec la rédaction, bien sûr. On parlera notamment de l'arrivée de la 5G en France avec Hakim Kasmi à 7h24, la revue de presse internationale avec Adrien Toffolé. Et puis, nous ferons un point sur l'Inde et sur le mouvement de contestation qui agite le pays depuis un peu plus de 2 semaines. Ce sera dans la question du jour. Il est 7h sur France Culture.